On prend son bâton, un sac, on évite qu'il soit trop lourd. Et puis surtout, on se coupe de tout ce qui vous retient à la vie courante. Et quand on marche sur les routes, on n'est plus qu'un point inconnu. Personne ne connaît ce personnage qui marche avec sa femme à côté de lui le long des routes. Et tous les soirs, le pèlerin étant pauvre, il frappe à une porte pour demander l'hospitalité d'une nuit. Car c'est la règle d'or, on repart le lendemain. Nous avons constaté que le passeport le plus éloquent et qui nous ouvre actuellement toutes les frontières, eh bien, c'est celui d'être chrétien. Dans ses contacts extrêmement fraternels avec les prêtres ou avec les moines ou avec les familles ou les civils qui nous accueillaient, on pouvait aller beaucoup plus loin. Et ça, c'était une des grandes richesses de notre pèlerinage. Et ça nous permettait de voir dans chaque pays quelle était l'importance des racines chrétiennes qui avaient été déposées et de voir là où elles avaient disparu, quels avaient été les ravages de la guerre et des oppressions que beaucoup de ces pays d'Europe ont connues.
Partout, dans tous les pays où vous êtes allé, vous avez reçu un très bon accueil, même en France.
Même en France, chose étonnante, on a traversé des régions déchristianisées où il n'y avait plus de paroisses et parfois plus de monastères. Mais comme on prie toujours avant d'arriver dans le lieu qui doit les accueillir, nous demandons au Seigneur de nous mettre en contact avec des gens qui ont le cœur bon. Et chaque fois, ça a été réalisé. C'est ainsi que dans le Jura, dans un tout petit village, on est tombé sur une communauté d'hommes et de femmes qui se réunissaient une fois par semaine pour prier, qui menaient une action d'ailleurs extraordinaire auprès des jeunes. Eux ont été enthousiasmés et bien sûr nous ont pris tout de suite en main. Et ailleurs, c'était aussi des cas tout à fait analogues. Donc même en France, la bonté, elle réside toujours dans le cœur des hommes, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne le soient plus.
Le but de votre pèlerinage, c'était aussi d'aller à la rencontre de ces peuples nouvellement entrés dans l'Union européenne.
On a tout de suite vu que, dû au communisme, il y avait des blessures dans chaque pays, il y avait aussi de nombreux martyrs. Mais on a aussi vu que ça pouvait être semence d'une grande richesse. Et par exemple, l'Ukraine, elle a une spiritualité extraordinaire et elle a aussi beaucoup souffert.
Avec tous les pays d'Europe de l'Est et l'Ukraine en particulier, nous avons vu tous les remparts d'incompréhension à abattre, toutes les démarches encore à effectuer pour que les chrétiens soient véritablement unis.
Quelles sont ces frontières à abattre, par exemple ?
Mais c'est surtout des frontières, je pense, dans nos consciences. On a été coupés pendant 50 ans et parfois même plus. Et on n'a pas encore assez pris conscience qu'il n'y a plus de frontières. Et ils ont besoin de notre amitié, par exemple. Ils ont soif aussi d'échanges et de rencontres. Et nous, souvent, on ne pense pas aller jusque-là, à poursuivre jusqu'à eux. Et on espère qu'il y aura un échange.
Et votre prochaine étape, alors
Mais notre prochaine étape, ça va être de rentrer dans notre pays, dans notre petit village de Provence, et puis de redevenir des pèlerins du quotidien. Et car cela, c'est beaucoup plus difficile, mais plus immédiat. Et ce pèlerin du quotidien, il reprendra de temps en temps son bâton pour aller dans des établissements scolaires, dans des paroisses, partout où on nous demandera, pour expliquer aussi ce que pense chacun des pays que nous avons traversés, car nous avons eu la chance extraordinaire de pouvoir vivre avec eux, de les regarder dans le blanc des yeux, de dormir dans leur maison avec une confiance stupéfiante. Et nous repartons avec dans notre sac une spiritualité intense que nous avons puisée dans tous les pays de l'Est.